Le zodiaque. Les signes du zodiaque, on parle d'astrologie. On parle du tueur alors du coup. Yes. Bête de film de c'est qui, c'est David Fincher.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour vivre avec son temps et parfois frissonner avec son temps. Car oui, en arrivant sur un terre il y a 3 ans maintenant, j'avais promis à Fabrice Drouel que jamais, au grand jamais, je n'empiéterais sur ces terres. J'avais menti, puisqu'aujourd'hui c'est sans vergogne, sans le moindre scrupule, qu'on va faire du affaire sensible dans Zoom Zoom Zen en se penchant, à l'occasion de la diffusion d'un documentaire ce soir sur Canal, sur l'une des affaires de serial killer les plus fascinantes de l'histoire. Une affaire qui a traumatisé l'Amérique, d'autant qu'à l'heure où on se parle, on ne sait toujours pas qui est le fameux tueur du Zodiac. Oui, cet après-midi, Manon et Quentin vont flipper. Moi, qui suis un peu plus âgé, je vais avoir la frousse. Quant à Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, qui était déjà inspecteur du FBI quand le tueur du Zodiac a commencé son périple meurtrier à la fin des années 60, il a carrément les miquettes. D'autant qu'il n'est pas blanc-bleu dans cette histoire. En effet, le 16 août 1969, les experts ayant décodé un message dans lequel il annonce son prochain crime, c'est l'agent Lacarrière qui est dépêché sur zone par le FBI pour prendre en flagrant délit le tueur du Zodiac dans ce diner de Californie. Seulement voilà, il tarde à venir et le Steiner propose de délicieux pancakes sirop d'érable. Une annonce promotionnelle indique même 3 pancakes achetés, un milkshake Oreo cookies offert. Il est 16h12 quand Cyril Lacarrière s'endort, le nez dans le maple syrup. 16h17 quand le tueur du Zodiac débarque dans le diner et assassine froidement 2 nouvelles victimes. « Sorry guys, my bad », déclara Cyril à ses supérieurs, la barbe encore parsemée d'éclats de Oreo cookies. 50 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui est le tueur du Zodiac, mais on va faire le point sur ce qu'on sait. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Sorry.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Nicolas Brénéol.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi, Nicolas. Vous êtes réalisateur de documentaires. On vous doit, par exemple, une série sur les secrets de Ramsès II diffusée sur RMC Découverte. Mais si on vous invite cet après-midi, c'est pour votre enquête sur le mystère du Zodiac, l'une des plus grandes énigmes criminelles américaines. Zodiac, l'obsession, c'est le titre de ce documentaire co-réalisé avec Raphaël Rouillet et Anne Coix. 4 épisodes diffusés ce soir et demain à 21h sur Canal+. Vous allez tout nous raconter, ou presque, hein, parce qu'il ne faut quand même pas tout dire, il y en a que dans le documentaire. Juste le temps de vous présenter mes fins limiers à moi. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Manon, qui adore les histoires de serial killers, elle peut passer des nuits à écouter des podcasts sur ce thème, avec une préférence, désolé Fabrice Drouel, pour le sens de la formule inimitable de Christophe Ondelat.
Donc Robert, tout impuissant qu'il était, avait bien une bite à la place du cerveau.
Manon,
j'adore vous, Jacques Pradel aussi, il faut pas s'oublier.
Jacques Pradel, c'est pas le même phrasé quand
non,
même. Hein.
Non, non.
Mais il fait moins d'imitations aussi, c'est vrai. Alors Manon, vous qui adorez ça, les serial killers, vous allez nous parler de l'autre personne à suivre dans cette histoire.
Bah, le réalisateur américain qui a réalisé un thriller génial sur le tueur du Zodiac, on l'a entendu dans l'introduction, avec un casting 5 étoiles et une mise en scène brillante.
Et vous, est-ce que ça vous parle, l'histoire du tueur du Zodiac? Quentin, vous êtes allé demander aux gens dans la rue s'ils connaissaient cette affaire.
Est-ce qu'ils connaissent? Mais ils sont passionnés. C'en est même effrayant. Alors pourquoi ce genre de cold case nous passionne? Pourquoi on s'endort avec? Qu'est-ce que ça raconte de la perversité de l'humain? Je suis venu vous parler du Zodiac sans lettre cryptée, juste avec un micro rouge dans la rue.
Et la perversité, vous en connaissez un rayon, mon cher Quentin.
Pourquoi?
Puisque quand, Cyril dit souvent, vous êtes le pire d'entre nous.
C'est vrai.
Ce qui est faux.
Sous vos
ce
airs rieurs. Vers 16h30, par amitié, au nom de tout ce qu'on a vécu ensemble, j'avais proposé à Benjamin Tranier de venir exceptionnellement présenter le quiz en mode Tranier raconte. Ça s'y prêtait puisqu'il s'agissait de deviner les plus abominables tueurs en série. Seulement voilà, même ses tarifs d'amis étant devenus prohibitifs, on va devoir se passer de Tranier. Le Zoom Zoom Test sera donc un Noël raconte. Ah. Juste avant 17h, ne cachez votre joie, cachez votre enthousiasme. Vous démarrez donc ce quiz avec un point de pénalité, évidemment.
Normal.
Juste avant 17h, Rosa Burstein nous rejoindra. Mais d'abord, c'est le documentaire qui va vous filer les miquettes ce soir sur Canal+, Zodiac, l'obsession. Nicolas, pourquoi vous parler d'obsession à propos de cette affaire du Zodiac. On en est vraiment là ?
Ah, complètement. Complètement, c'est le thème principal du film, l'obsession. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on a rencontrées au cours de l'enquête dans l'équipe qui s'intéressent de près ou de loin au Zodiac sont tombées dans l'obsession. Et même, c'est au-delà de l'obsession, on est dans le rabbit hole. Quand on suit Faisal Zeraoui...
Le trou du lapin ?
Exactement. Le terrier, le fameux endroit où Alice, au Pays des Merveilles, dans le bouquin de Lewis Carroll, va se plonger après avoir suivi ce fameux lapin. Et en fait, on sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on ressort. Et le Zodiac, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que l'obsession Fessal, qui va être du coup notre passeur, notre personnage français, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que c'est unique. Des séries sur le Zodiac, il y en a plein. Ce qui fait que celle-ci est unique, c'est parce qu'on a un personnage français qui est Zodiac Zira... qui est Fessal Zirawi, pardon,
c'est lui,
excuse-moi, Fessal. Mais vous me demandiez qui c'était. Écoutez, au bout d'un certain temps, on en perd un petit peu la lucidité. On ne sait plus, est-ce que c'est lui, est-ce qu'il est encore en vie, quel âge il avait à l'époque et tout, on ne sait pas. Par contre, quand on suit Fessal, on s'intéresse au Zodiac comme aucun spectateur français n'a pu le faire auparavant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est aux côtés de Fessal et on plonge dans un univers complètement incroyable, inconnu. Et Fessal, au début, quand on commence à travailler avec lui, au début, on se dit, bon, je vais filmer un gars, un matheux, brillant, un peu gamer, un peu geek, et on va rester chez lui travailler des codes. En fait, pas du tout. Fessal, il vous envoie à l'autre bout de l'Atlantique, au fin fond de la Sierra Nevada, au milieu des serpents à sonnette, retrouver des éléments qui vont quand même poser question. Qui vont poser question sur le sens de ces découvertes, sur la solution qu'on peut apporter au Zodiac.
Alors, que Fessal apporte-t-il à cette enquête sur le Zodiac ? On va en parler ensemble cet après-midi.
C'est pas moi qui vous le dirai, pour le coup.
Non, bien sûr, mais bon, on va quand même aborder le sujet. Face à vous, Nicolas, si le tueur du Zodiac a pu s'en sortir, c'est donc à cause de lui. La honte du FBI, qui a dû se promener pendant 3 mois avec un écriteau « Sorry, I ate pancakes during the job ». Cyril de la Carrière, tout ça est votre faute.
Très bon.
Et ça n'étonnera pas nos auditeurs, car tout est souvent votre faute dans cette émission. Néanmoins, même si c'est dur et humiliant pour vous, qu'il avait laissé filer, vous allez nous raconter l'affaire du tueur du Zodiac, d'où ça sort.
À moins que ce soit moi. Bref.
Oh mon Dieu.
Le Zodiac, ça commence par un double meurtre. Le 20 décembre 1968, David Faraday, Betty Lou Jensen, deux ados de 17 et 16 ans, sont assassinés en Californie. Et tout porte à croire qu'il s'agit là du premier acte connu du tueur du Zodiac. 4 juillet 1969, un autre couple, toujours dans la même région californienne, se fait tirer dessus. Darlene Ferrin succombe à ses blessures, mais Michael Maggio survit et c'est lui qui va permettre de fournir les premières descriptions du tireur. Quelques jours plus tard, le 31 juillet 1969, 3 lettres sont envoyées à 3 journaux de la côte ouest, le Valero Times Herald, le San Francisco Chronicle et le San Francisco Examiner. Elles sont signées de celui qui se revendique de ces 2 attaques meurtrières. Il en donne des détails que seule la police connaît et il exige que les journaux impriment ces lettres sous peine de commettre 12 nouveaux meurtres le week-end suivant, des lettres qu'il signe d'un symbole, un signe plus dans un rond, une sorte de croix celtique.
Mais surtout, Cyril, il joint quelque chose de jamais vu à ses courriers.
3 cryptogrammes les accompagnent. Selon le tueur, les déchiffrer permettrait de connaître son identité, un mystère qui demeure encore aujourd'hui inconnu. En revanche, on a décrypté ceci, cette phrase « J'aime tuer des gens car je trouve ça très drôle ». Sympa. Et visiblement, il aimait vraiment s'amuser, ce tueur, car si la police lui attribue formellement 5 meurtres, lui en revendique 37. Selon le journaliste Robert Gray Smith, le nombre de victimes atteindrait 49. Alors, si vous avez vu le film Zodiac de David Fincher, Robert Gray Smith, c'est le rôle joué par Jack Gyllenhaal. Gyllenhaal qui rejoint David Schwimmer au panthéon des plus mauvais acteurs américains.
C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Il est super dans Zodiac.
Mais bref, tout ça ne nous dit pas qui était le tueur
seul
du Zodiac.
Contre tous, mon pauvre vieux.
C'est pas grave ça. D'ailleurs, personne ne sait vraiment qui est le tueur du Zodiac, ce qui ne va pas nous empêcher d'en parler durant 1 heure.
Merci quand même, Cyril, malgré toutes les bêtises que vous avez pu dire en marge de ce petit billet. Nicolas Brénéol, 5 meurtres attribués formellement, 37 revendiqués, peut-être 49. Pourquoi on n'est même pas sûr du nombre de victimes du tueur du Zodiac ?
Parce que le problème à l'époque, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un meurtre, beaucoup de personnes l'associaient au Zodiac. Et lui, il se cachait pas pour les revendiquer. Et en plus de cela, il envoyait des courriers dans lesquels il jouait un jeu de chat à la souris avec les policiers en disant SFPD, donc San Francisco Police Department, 0, moi, 12, moi, 17, et moi, 37. Et en fait, ça continue, jusqu'à une certaine période où il n'envoie plus rien.
Qu'est-ce qui caractérise les meurtres ? Est-ce qu'il y a un point commun entre...
Mais c'est un peu tout le problème, il n'y a pas vraiment
de mode opératoire.
Parce qu'un coup, il va prendre des armes à feu, un coup, il va prendre une arme blanche, un coup, il va attaquer des amoureux en pleine nuit le long des Lover's Lane, un coup, il va attaquer des gens en plein jour, et un autre coup, il va attaquer un chauffeur de taxi, tout seul, au cœur de San Francisco.
Est-ce que potentiellement, il s'est attribué des meurtres qui n'étaient pas de lui ?
Ah, c'est fort probable.
Fort probable. Donc c'est pour ça que c'est impossible de les compter. Ouais.
C'est là, oui, tout à fait, c'est
mais
fort probable.
Ça aurait pu être démontré, c'est-à-dire que dans d'autres affaires, par exemple, il revendique certains meurtres qu'il n'a pas du tout connus, puis quelques années plus tard, on découvre, ou quelques mois plus tard, on découvre qu'on chope le vrai coupable dans ces affaires-là. Ça n'a pas été le cas ?
Ça n'a pas été le cas.
Ah, oui.
Ça n'a pas été le cas parce qu'il y a plein de raisons différentes. Il y a différentes juridictions, il y a différentes temporalités, les personnes ne sont pas les mêmes enquêtées dessus. Donc, et puis après, on est comme dans des. Nous, on est à Paris, mais là-bas, on parle de San Francisco. Je veux dire, la criminalité à l'époque, dans les années 60-70, c'était quand même assez dense. Et les moyens n'était pas non plus ce qu'on peut avoir aujourd'hui.
Pourquoi le nom Zodiac ?
Alors ça, c'est lui qui va se revendiquer. Dans sa deuxième lettre, il va envoyer une lettre en se faisant appeler Zodiac. Pourquoi ? Alors ça, faudrait lui demander. Nous, on a un peu une... En fait, on a une période, dans la fin des années 60, si vous voulez, les signes du Zodiac, tout ça, c'est un peu à la mode. Il y a une comédie musicale qui s'appelle Air, qui va parler de l'ère de l'Aquarius, du Verseau. On est à fond là-dedans, et donc c'est un truc un peu hippie. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien ou pas ? Alors ça...
Cyril a dit qu'une des victimes a réussi à s'échapper et donc à dresser une sorte de portrait robot. Mais donc on sait au moins, parce qu'on parlait des spéculations sur son âge, peut-être qu'il y avait quand même une idée de l'âge qu'il avait à la fin des années 60.
Alors il y a en fait deux... le portrait robot ne va pas être fait par cette victime-là. Michael Majot, lui, en fait c'est très compliqué, on est tard dans la nuit, il ne voit pas grand-chose. Par contre, lorsque Paul Stein, qui va être la dernière victime officielle du Zodiac, va être tué, assassiné froidement au cœur de Presidio Heights, dans les beaux quartiers de San Francisco, là, il y a des enfants qui sont à la fenêtre du deuxième étage de chez eux et qui vont réussir à dresser un portrait. Et ce portrait, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde. On est avec un homme, 35-40 ans, on va dire, lunettes, coupées à la brosse et tout. Enfin, je veux dire, vous mettez ça, vous sortez dans la rue, vous en trouvez 40, hein, tout de suite. Il est peut-être avec nous, effectivement.
Oh non, j'ai pas encore 35
quatre,
ans.
Vous quatre il autour manque... de la table, hein, pardon.
Ah, ils ont plus de 35 ans,
Il y en a
pardon.
Un seul qui a pu commettre tout c'est ça, c'est celui qui était né à l'époque. Bon. Cyril Lacarrière.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Zoom cet après-midi sur le mystère du Zodiac, l'une des plus grandes énigmes criminelles de l'histoire des États-Unis, si ce n'est la plus grande. Notre invité Nicolas Brénéol en a fait une série documentaire, 4 épisodes diffusés à partir de ce soir sur Canal+. Nicolas, vous racontez cette affaire hors norme à travers l'histoire de Faisal Zeraoui, un ingénieur polytechnicien français. Alors, qui est-il ce Faisal déjà ?
Faisal, c'est un esprit brillant avec un goût immodéré pour le jeu, l'enquête et je dirais une envie profonde d'occuper son temps à faire des choses extrêmement prenantes. Et ça, il est très très doué pour le faire. Et du coup, il a aussi cette capacité à nous embarquer avec lui. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, quand on le rencontre, en fait, c'est Faisal, il est boulimique de plein de choses. Il a cette capacité à nous envoyer dans sa pensée. Et avec lui, à nous faire adhérer à sa pensée. Et ce qui fait qu'au début, il est tout seul, mais du coup, après lui, il a toute une équipe avec lui qui le suit et qui a
une
envie de l'accompagner. Une équipe d'enquêteurs. Et donc, du coup, qu'on le veuille, malgré tout, on devient enquêteur avec lui et à côté de lui.
Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déchiffré les derniers codes du Zodiac ?
Ah, alors ça, je ne peux pas trop vous le dire, il faut que vous regardiez la série.
Oui, enfin, on travaille là-dessus, quoi.
Ce qui va se passer, en fait, le Zodiac, il envoie 4 codes. Il y en a un qui a été déchiffré deux semaines après l'envoi en 1969. Le deuxième, il faut attendre 50 ans, il en reste 2. Le Z32, Z13, par rapport au nombre de caractères qu'ils contiennent.
Attendez, ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est un expert,
ouais.
Non seulement très intelligent, mais très habile dans les codes, c'est une science. Enfin, genre,
oui,
ne pas réussir à décoder un code, ça doit être rarissime, non ? Pour réussir à constituer un code suffisamment fort pour ne pas être décrypté vite, il faut être soi-même très fort, non ?
Oui, tout à fait. Pour répondre à votre question, Faisal, il est polytechnicien, c'est les mathématiques, c'est son truc, et il va se plonger dans cette affaire parce qu'il va trouver un article qui va raconter l'histoire de la solution qui a été réalisée par David Oranchak en 2021. Il a solutionné le Z340, qui est le deuxième code qui a été envoyé par le Zodiac. Faisal va tomber sur cet article, et là, cet article, c'est le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. C'est à partir de là qu'il est lancé. Et il se dit, il découvre qu'il reste 2 codes. Et du coup, il décide de se lancer là-dedans et de travailler sur ces codes.
Alors, que disent déjà les 2 premiers codes ?
Le premier, il raconte, c'est le Zodiac qui envoie une lettre dans laquelle il revendique ses meurtres et il explique la motivation de ses meurtres. Et en gros, il collecte des esclaves dans cette vie pour qu'il puisse l'accompagner dans son paradis à lui. En gros, c'est ça.
Ah oui, d'accord. Et le deuxième code ?
Le deuxième est un peu dans la même veine, mais il a été écrit par le Zodiac à la suite d'une diffusion à la télévision où, à l'époque, on est sur une télévision locale. Un homme se faisant passer pour le Zodiac va appeler et va, on va dire, prendre la place du Zodiac et raconter qu'il va tuer des enfants. Et du coup, le Zodiac va tout de suite envoyer un autre courrier
pour dire
dans lequel
moi.
Qui dit « ce n'est pas moi ».
Quentin,
vous dites que le premier a été déchiffré dans les années 60-70.
Oui.
Le deuxième, 50 ans plus tard, par un amateur, des amateurs.
Par un amateur qui va travailler 14 à 15 ans dessus.
Alors, que fait la police?
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Bah, en fait, la police, elle a autre chose à faire. C'est-à-dire qu'il y a le tout venant, si vous voulez. Il y a une criminalité qui est aussi importante. San Francisco, c'est plus trop ce que c'était non plus. Il y a beaucoup de choses. Et les cold cases, ça coûte cher. Il y a une unité cold case au SFPD, le San Francisco Police Department. Mais il n'y a pas les moyens pour solutionner ce case. Par contre, dans d'autres affaires, ça a été le cas. Et on a solutionné récemment, grâce à l'ADN, l'affaire du Golden State Killer. Donc, un jour, peut-être.
Mais non.
Pour Faisal Zeraoui, le meurtrier qui se cache derrière le Zodiac s'appelle Lawrence Kane. C'est qui ?
Lawrence Kane, c'est un homme au CV, on va dire, assez étrange et qui fit vraiment bien avec le Zodiac. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs condamnations, 19 au total, pour des faits de délinquance, pour des vols, pour plein de choses, qui a un passif dans la Navy, dans lequel il a participé à un stage qui permet de fabriquer ce genre de code qui envoyait dans des courriers à son amante de l'époque, qui était une star du showbiz, des mots assez étranges où il fait référence au signe du Zodiac.
Il a été interrogé par la police ?
Il a été interrogé par la police.
Mais on l'a laissé libre, tranquillement.
On l'a laissé libre, mais comme beaucoup d'autres.
Ouais, sûr,
il y a plus
sûr.
De 2500 suspects dans cette affaire.
Ah. Quentin, c'est le moment ou jamais d'imiter votre idole, Fabrice Drouel.
Oui, Mathieu, aujourd'hui on zoome sur l'énigme du Zodiac, ce tueur en série qui a terrorisé la Californie à la fin des années 70, et je suis allé vous interroger dans la rue. Ce tueur, l'avez-vous croisé ? Un micro-trottoir que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, sur l'application Radio France.
Je traverse la Seine, puisque je m'autolance maintenant.
Ouais, vous autolancez, c'est très bien.
Je traverse la Seine, j'en profite pour regarder ce bateau-mouche qui fait demi-tour tout seul, c'est fou la maîtrise. Oui, j'ai du temps dehors, et alors ? C'est ici que je rencontre ce monsieur, un imperméable gris, des lunettes rondes, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Marc.
Marc, vous avez quel âge ?
J'ai 67 ans, je suis journaliste.
Pour qui ?
Un quotidien régional.
Et lequel ?
Le Courrier de l'Ouest à Angers.
Mais c'est fou, j'ai une chronique sur la presse quotidienne régionale sur France Inter, moi.
On est fait pour s'entendre.
Bien sûr, je dis pas mieux. Je fais lire à ce confrère le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Le Zodiac.
À quoi ça vous fait penser ?
Au signe astrologique. Un bateau en plastique. Ah oui, c'est un tueur en série.
Aussi. Ouais, bah, je demande à Marc pourquoi nous sommes fascinés par ce genre d'affaires.
Je crois que ça date d'Abel et Cain. Il a tué son frère, et depuis ce temps-là, on se demande pourquoi est-ce que les hommes en tuent d'autres, quoi, voilà.
Il y a un côté monstre ?
Ouais, alors ça, c'est... Non, ça reste des êtres humains, voilà. Enfin, il n'y a pas de monstre, tu vois, ça n'existe pas, un monstre. T'as jamais vu un monstre ? Tu vois des êtres humains. C'est des êtres humains qui sont dégénérés, quoi, enfin, qui ont un problème. Mais un monstre, c'est dans les contes de fées, quoi. Mais non, tu vois, le mec, il passe à côté... C'est pas un monstre, tu le reconnais pas dans la rue et pourtant il va te tuer.
Vous me faites peur d'un coup là.
Oh le froid.
Ouais, un peu, oui. Ce jeune homme marche dans ma direction et il me sourit. Normal, on le connaît.
C'est quoi le zoom du jour ?
De quoi ?
On zoom sur quoi aujourd'hui ?
Alors déjà on va te présenter, bonjour.
Ouais, Julien, enchanté.
Julien, qui es-tu pour nos auditeurs ?
Je suis technicien et musicien.
Où ça ?
Radio France.
T'as une belle moustache, j'avais pas vu de près là.
Ouais, merci. Hein. Le Zodiac.
De quoi on parle ?
On parle du tueur alors du coup ? Yes ! Bête de film de... c'est qui ? C'est David Fincher ?
Je lui parle de notre sujet du jour et de vous, de votre documentaire, Nicolas Brénéol.
Un doc sur le Zodiac ? Je suis un grand fan des faits divers, de trucs criminels et tout ça, donc oui forcément je vais le regarder je pense.
Ça s'appelle Zodiac l'Obsession.
L'Obsession Zodiac, ça va être la mienne je pense. Juste pour dormir, c'est génial ce genre de programme.
Mais c'est fou ! On s'endort pas avec des histoires, le mec a tué 37 personnes.
Bah bizarrement si, je sais pas pourquoi, Faire Sensible par exemple, c'est un de mes meilleurs partenaires pour dormir, Fabrice Drouel. Je sais pas comment il fait, mais à chaque fois, c'est un sommeil de bébé quoi.
Ce marchand de sable de Fabrice. Pour lui, il y a tout un univers autour de l'affaire du Zodiac, dans le fond comme dans la forme.
Pareil, c'est toute une histoire de mythe pour moi, le code du tueur en série qui se met en scène en fait au final devant les autorités. Ils passent du temps à le déchiffrer. Ils déchiffrent pas tout d'ailleurs. Ils font plein de trucs. Ils analysent comment il écrit. Ils analysent les mots qu'il utilise. Qu'est-ce que ça veut dire sur lui. C'est un truc de faux, ouais. C'est le mec, il voulait se faire choper en fait.
Et ils l'ont pas chopé.
Est-ce qu'il a réussi du coup, son plan?
T'en penses quoi?
Bah on parle encore de lui aujourd'hui quoi.
Eh hey, pas faux. Plus loin, alors qu'elle s'apprête à entrer dans une boulangerie, j'arrête Marie, qui est accompagnée de qui?
Avec mes deux enfants et mon mari.
Toute la famille est là?
Oui.
On essaye un truc? Vite
ouais,
fait.
Ouais, allez. Le Zodiac?
De quoi on parle?
Du tueur en série?
Exactement.
C'est pas vrai. Mais pourquoi on parle du Zodiac?
Il y a un doc qui sort sur Canal, là.
Ah!
Parce que ça reste un cold case.
Ouais, tout à fait. Ouais, je pense à ça parce que j'ai une curiosité malsaine pour ça, mais j'adore, en fait. Non, mais vous allez me faire passer pour une psychopathe.
Mais non, bah, si Marie est une psychopathe, nous sommes des millions. Son mari est notaire en déplacement à Paris. Lui, il nous parle de cette fascination plutôt étrange.
On déteste les admirer, parce qu'ils ont réussi à déjouer la société, la police, tout ça. Donc ils sont toujours introuvables, mais ils sont plus forts que tout le monde. C'est ça où on a un peu une admiration pour des gens un peu détestables, mais on les admire parce qu'en fait, toujours jusqu'à présent, personne ne les a retrouvés.
C'est compliqué de dire qu'on admire.
C'est oui, mais c'est ça aussi qui est paradoxal. On les déteste et on se déteste d'admirer ces gens-là. C'est comme les mafieux ou les voyous. Dans ce sens-là, moi je les mets tous dans la même case. C'est des méchants et si on fait les méchants et les gentils, c'est les méchants eux. Et les gentils, on ne sera jamais des méchants, mais au fond, nous, on se dit, ah, ça va être quand même bien de, un jour de dépasser la limite, mais on ne le fera jamais. Moi, je vais passer pour un psychopathe.
Oui. Alors, des monstres qui n'en sont pas dans la rue, aux films et séries qui ont popularisé l'affaire, en passant par l'étrange fascination avec laquelle on peut découvrir cette histoire des lettres cryptées d'un maniaque, notre génération est aussi malheureusement née sous le signe du Zodiac.
Nicolas Brénéol, Zodiac, l'obsession, ça va devenir la mienne, nous dit Julien dans le micro-trottoir de Quentin. Vous-même, vous aviez une obsession pour cette affaire avant de vous lancer dans le documentaire ou vous l'avez découvert à l'occasion de ce documentaire?
Non, j'avais vu le film de David Fincher en tant que grand fan de David Fincher. Alors après, on comprend, quand on a un documentaire à faire sur le Zodiac, on comprend tout le parcours de Jack Gyllenhaal et on se rend compte à quel point c'est facile de tomber dans ce vortex obsessionnel. Parce que c'est ça, en fait. Quand on fait un film, en fait, on se documente et puis après, on plie bagage. C'est fini, c'est dans un coin de notre tête. Là, le Zodiac, en fait, on est vraiment dans le rabbit hole. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un terrier, il y a plein de galeries partout. Et à chaque fois, ce qui est encore plus dingue, ce qu'on n'a pas dit, et ce qui est important de dire, c'est que sur Internet, la quasi-totalité du dossier d'enquête est disponible.
Chacun de nous, là, chaque auditeur là, peut aller se procurer le dossier et faire son enquête.
Exactement. Vous avez le premier site qui a été inventé, créé par Tom Voigt, qui est un de nos intervenants, qui s'appelle zodiackiller.com. Vous allez dessus, vous allez trouver les PV d'audition, vous allez trouver les rapports d'enquête.
C'est devenu un jeu,
donc,
quoi.
Ouais. Faites attention, parce que si vous lancez là-dedans, vous ne savez pas quand vous avez...
Non,
vous
après, je ne reviens plus à l'antenne.
Vous êtes devenu obsédé, vraiment?
Obsédé, non. Alors après, je pense que là où on peut... en fait, je pense que ça nécessite une connaissance de soi-même. C'est-à-dire que quand on rentre dans quelque chose, il faut savoir s'arrêter. Et on sent à des moments, on dit là, il y a des portes. Je sens que si je rentre là-dedans, je ne vais pas m'arrêter. Et vous verrez, enfin, je veux dire, on a Fessal qui, lui, a une trajectoire, mais extraordinaire.
Il ne s'est pas arrêté.
Extraordinaire. Vous allez le découvrir et c'est encore plus impressionnant que ce que vous pouvez imaginer. Mais il y a aussi d'autres personnages. Fessal, lui, ça fait quelques années qu'il est dessus. Il y en a d'autres, ça fait 50 ans.
Quentin?
Donc il y en a qui vont mourir sans avoir la vérité. Mais lui, Julien, il nous dit qu'il s'est mis en scène, le Zodiac. Il a joué avec les médias et qu'il voulait se faire choper. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous pensez vraiment ça?
Ah mais oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça qu'il écrit à la police.
Qu'il voulait se faire attraper.
Bien sûr.
Bah donc il est mort, parce que sinon il se serait manifesté depuis le temps pour relancer le jeu de piste ou...
1974, il n'y a plus de nouvelles à partir de ce moment-là.
Ouais.
On l'entendait dans le micro-trottoir, mais vous comprenez la fascination pour les serial killers aujourd'hui. Ils sont quand même partout, dans des documentaires, dans des films, dans des séries. C'est morbide un peu.
C'est morbide, mais je pense qu'on aime tous ça. Enfin, je veux dire, on aime tous le polar, on aime tous les affaires criminelles, parce que ça raconte aussi l'âme humaine, ça raconte ce qu'on a à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'un être humain fait comme nous est capable de faire ces choses-là, et comment d'autres arrivent à trouver les ressorts pour réussir à le pincer. Et le problème avec les cold cases, c'est que le Zodiac, c'est le Jack l'Éventreur américain. Il y a des histoires comme ça où on n'a pas la solution. On a l'affaire du petit Grégory en France. On ne sait pas. Enfin, je veux dire.
Et c'est pas des monstres. Et c'est des gens, c'est Monsieur Tout le Monde.
Mais c'est Monsieur Tout le Monde. Mais qu'est-ce qu'un monstre en fait? Ça pose la définition du monstre. Mais c'est ça qui est complètement dingue et dans lequel on vire dans l'obsession, c'est que des personnes pensent à détenir la vérité. Et du coup, l'obsession, c'est non plus connaître l'identité du tueur, parce que ça, ils la connaissent. En tout cas, ils sont persuadés de la connaître, c'est prouver leur vérité.
Prouver au monde entier.
France Inter.
À la base, pour cette spéciale tueur en série, c'est Benjamin Tranier qui devait vous présenter le quiz. Hélas, il était trop cher, mais il m'a laissé un message.
Alors, mon Noël, c'est pas compliqué. Pour faire un bon Tranier à compte, tout est dans la pipe. Le c'est du début. Alors, vas-y pour voir.
Waouh,
c'est éclaté. Mais bonne chance quand même, mon Noël. Je rappelle aux auditeurs que le vrai Tranier, c'est à 6h-10. La chronique que tout le monde attend.
J'arrive pas du tout. Moi, je fais des bisous parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un qui fait des bisous.
Ouais, il le faisait bien, Quentin. Ouais.
Bon, c'est donc Quentin qui le fait. Je me lance quand même. Jouons au Zoom Zoom Test.
C'est bruitage là. C'est...
Votre mission, deviner à chaque fois quel tueur en série se cache derrière mon Noël raconte. Nous sommes le 11 mars 1944, journée mondiale du clafoutis. Au Lutetia, Helmut La Carrière, le grand-père de Cyril, reprendra trois fois du dessert. Nous sommes donc le 11 mars 1944 au 21 rue Le Sueur, dans le 16e arrondissement. Alertés par une odeur plus insoutable encore qu'une rame de Ouigo un week-end de chassé-croisé, les pompiers fracturent la fenêtre de cet hôtel particulier. Nom de Dieu, ça chenouffe comme dans la chambre de Quentin Lui au Novotel de Lille après le dîner au Bellazza, s'écriera le capitaine des pompiers avec une prescience étonnante, probablement un voyageur du temps. À la cave, c'est l'horreur qui attend les soldats du feu. Des cadavres jonchent le sol, mais pas des cadavres de bouteilles comme chez la Marianoche un dimanche matin, de vrais cadavres, dévorés par les vers et tout et tout. Dans la chaudière, c'est pas mieux, des restes humains seront retrouvés. Au total, plus de 20 victimes, des femmes essentiellement, ont terminé en combustible naturel chez ce visionnaire de la transition énergétique qui était aussi un mytho, un klepto, un arnaqueur de daronne, un tueur méthodique, en résumé, un sacré fils d'up. Son nom,
Docteur Petiot.
Docteur Petiot, oh oui, Quentin.
Je ne connais pas.
Vous connaissez pas le Docteur Petiot?
Écoute pas les archives, j'ai fait dans les archives.
Je retiens pas tout.
Quand même.
Évidemment, un docteur pas comme les autres qui recrutait ses victimes par petites annonces. Une histoire qui devrait inciter Pierre Courade à se méfier quand il achète ses shorts sur le bon coin. Mais poursuivons.
Ou pas.
Nouveau serial killer à deviner, nouveau Noël raconte. Nous sommes le 28 novembre 1994, journée mondiale de la polygamie. Cyril Lacarrière est en séminaire dans le Luberon. À Portage, dans le Wisconsin, l'atmosphère est moins rieuse, puisqu'en ce 28 novembre 1994, dans la salle de musculation de la prison de Columbia, un certain Christopher Carver éclate volontairement la tête d'un co-détenu à coups d'haltère. Ce dernier n'en réchappera pas, et ce n'est que justice vu son CV d'archange du mal. Une vocation qui s'était déclarée très tôt chez lui, puisqu'à l'âge de 7 ans, il avait commencé à clouer des animaux morts aux arbres.
On peut le dire là ou pas ?
Un hobby évoluant assez vite à l'âge adulte vers la découpe d'amants non consentants, son surnom le cannibale de Milwaukee, la ville où il exerça ses nombreux talents, comme par exemple percer les crânes de ses victimes encore vivantes pour y verser de l'acide. Une version un peu extrême du Docteur Maboul, un serial killer tellement imaginatif que Netflix lui consacre une série en 2022. Vous avez évidemment reconnu...
Jeff Dahmer.
Jeffrey Dahmer.
Jeff,
vous êtes intime visiblement. Jeffrey Dahmer, pourtant maintenant vous nous en avez parlé.
Oui, non mais j'allais le dire, mais en fait j'avais pas capté que c'était là qu'il fallait répondre, pardon.
C'est la petite musique de résolution de faire entrer l'accusé. Effectivement, c'est reparti. Nous sommes le 7 janvier 1992, journée mondiale de la lutte contre l'alcoolisme. Après avoir bu tous les fonds de verre de tous les adultes, Manon Mariani expérimente son premier coma éthylique. Nous sommes donc...
Quelle année on est?
92, elle a un an.
Ah ouais, super.
Nous sommes donc le 7 janvier à Bischwiller, dans le Bas-Rhin, et le gendarme Abgral vient de passer les gourmettes à l'homme qui prendra perpète pour 11 assassinats, hommes, femmes, enfants, un tableau de chasse inclusif. Fin d'un sanglant parcours pour celui qu'on surnommait enfant Félix, parce qu'il mangeait des conserves de pâté pour chat. Son itinéraire meurtrier nous amène à la rencontre de la France des terroirs, celle mise à l'honneur, quoique différemment, dans les stories de Pierre Courade, Périgord, Moselle, Bretagne. Fun fact sur le gâteau, sa mère est morte le même jour que le petit Grégory, ce qui n'aura a priori aucune incidence sur le parcours de celui qu'on a appelé le routard du crime, et qui est évidemment...
Le
routard du crime, notre invité va nous donner la réponse.
Francis
Nicolas
Saulme.
Francis Saulme, évidemment, monsieur est un expert. Le routard du crime, Francis Saulme. Poursuivons dans le sordide. Nous sommes maintenant le 24 janvier 1989, journée mondiale du Rastafari. Jean Raoni, le père de Ghislain Fontana, notre réalisateur, vient de faire sanctifier ses sandales Birkenstock par Raël.
Ah non.
Nous sommes donc le 24 janvier 1989 et la chaise électrique d'une prison de Floride vient de griller le sif d'une belle ordure. Beau gosse et charismatique, un peu comme moi, il approchait ses victimes en feignant une blessure, les mettant en confiance avant de passer à l'acte. Un brin nostalgique aussi, puisqu'il retournait sur les scènes du crime afin de pratiquer l'acte d'amour avec ce qu'il restait des corps en décomposition. Condamné trois fois à mort dans ses procès, même son avocate a déclaré qu'il était un démon sans cœur.
Ted Bundy.
Ted Bundy, oui, l'ange de la décomposition. a les mêmes initiales que Tranier Benjamin, Ted Bundy, ah, effectivement. Alors que Benjamin envisage désormais des poursuites pour contrefaçon, voici un tout dernier. Noël raconte. Nous sommes le 9 septembre 2007, journée mondiale des transports en commun. Je prends le métro pour la première fois, d'aucuns diront aussi la dernière. Nous sommes donc en septembre 2007 et la Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi d'un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de 8 femmes, au minimum. Cet ancien légionnaire, décrit par son avocat comme un brave pépé rigolo, un peu grossier parfois, mais pas dangereux, une sorte donc de Cyril Lacarrière, profitait de son emploi de chauffeur auprès de la compagnie Les Rapides de Bourgogne pour choisir ses victimes de jeunes déficientes mentales, pupilles de la DAS, pour se constituer un cerveau de chasse macabre.
Moi aussi j'ai, on t'allait
attendre. Ah oui, mais allez-y.
Émile Louis.
Oh oui, Manon s'est allé un peu plus vite à ma droite, effectivement. Évidemment, bravo Manon, bravo Manon.
Mais pourquoi bravo Manon?
Mais faut attendre la musique, on a dit.
Comme ça, on attend la musique de résolution. Effectivement, le boucher de Lyon.
C'est pas clair.
Oui, on est d'accord.
Et c'est la fin de cette spéciale Noël raconte.
C'était super.
Oasis de divertissement léger dans une actualité morose. Victoire de Manon Mariani. Mais de justesse, Quentin s'est bien défendu.
C'est pas possible. Ah, mais t'avais moins un, c'est pour ça.
Vous déposez une contestation? Vous aviez moins un au démarrage.
Ah ouais, mais pourquoi?
Parce que vous avez été insolent en début d'émission, comme souvent.
Je vais arrêter de jouer.
Ah,
l'énigme du
Zodiac.
Je
vais arrêter de jouer. Manon affrontera l'invité et j'irai aux toilettes.
Aux toilettes, Quentin.
Il est mauvais joueur. Ça
n'a rien à voir.
Il n'y a rien à gagner.
C'est fou.
L'énigme du Zodiac cet après-midi dans Zoom Zoom Zen avec le réalisateur du documentaire Zodiac, l'obsession diffusée à partir de ce soir sur Canal+, Nicolas Brénéol. Nicolas, avec ses messages cryptiques qu'il envoyait à la presse, ce tueur du Zodiac, il voulait vraiment se faire choper? Ou bien là encore, c'était finalement pour brouiller les pistes et juste désorienter les gens, désorienter la police?
Mais tout est fait pour désorienter avec lui, parce qu'il n'y a pas de mode opératoire cohérent. Donc il cherche l'attention, il joue au chat et à la souris, il essaye de montrer qu'il existe et il le fait en grande ampleur. Et donc du coup, il écrit à plein de journaux. Et puis il y a le premier journal qui va commencer à s'intéresser vraiment à lui. Il va écrire plus à ce journal-là et ça va amener à des personnes comme Paul Evry et Robert Grassmith à s'y intéresser, qui sont les premiers sleuths de cette affaire. Les détectives amateurs, en fait, qui vont... Alors eux, c'est des journalistes, mais après, Paul Evry est journaliste à l'époque et va enquêter dessus et il va s'y perdre. Mais il y a Robert Grassmith qui, lui, va devenir le premier de ces détectives amateurs, qui est à la base dessinateur pour le San Francisco Chronicle et qui va passer plus de 20 ans à enquêter une piste dans laquelle il va écrire un bouquin qui va devenir un best-seller et qui est d'ailleurs le bouquin le film de Fincher est la pure adaptation de ce bouquin-là. Oui. On n'est pas sur une vision non plus 100% véridique de l'affaire. On est sur la vision d'un homme. Mais des Robert Grassmith, il y en a plein. Mais quand je parle de plein, c'est des centaines et des milliers. Il y a plus de 600 000 personnes dans le monde fans du Zodiac. C'est une véritable communauté, le Zodiac.
On ne va pas, évidemment, dévoiler ce qu'on découvre dans le documentaire, mais il y a quand même une chose. Faisal Zirawi, qui est le personnage central qu'on suit, la théorie qu'il met en avant, qu'on va découvrir si on regarde le documentaire, elle-même, elle est finalement battue en brèche aussi par d'autres spécialistes. Et c'est vraiment argument contre argument, cette histoire.
Et c'est ce qui est fascinant. C'est à quel point... Faisal, quand il rentre là-dedans, il part, comme il dit, c'est un peu le lapin de 3 semaines qui débarque. Il est là, c'est le petit nouveau, et il découvre tout un écosystème. Et là, tous les coups sont permis. Et c'est ça qui se passe. Et en plus de cela, il est français. Et il arrive sur un territoire américain. Mmh. Et alors même s'il y a des fans, des web sleuths, enfin, des fans partout du Zodiac monde, un peu partout dans le monde.
Mais là, quand même, il est français, ça, c'est ça. Un point négatif pour lui.
Mais ça va aussi être un point positif d'un autre côté. Donc
il se rend sur un lieu en Californie qui s'appelle le Trou de l'Enfer. De quoi s'agit-il?
Alors ça, je ne peux pas trop vous spoiler. C'est un endroit, si vous voulez, sa résolution des codes vont l'amener à trouver un lieu complètement incroyable et énigmatique qui n'avait jamais été trouvé, jamais mis en lien avec l'affaire du Zodiac. Et cet endroit-là, il se trouve au Trou de l'Enfer.
Si on tape sur Google Earth, Trou de l'Enfer, on va le trouver pour aller voir.
Vous pouvez, elle haut, hein. Oui, oui, mais alors là, franchement, bon courage. Parce que pour le trouver...
Mais Manon. Il y a quand même eu des suspects, à un moment donné, principaux. Il y a des noms qui ressortent. Vous pouvez nous en dire quand même quelques-uns?
Bien sûr, il y a Arthur Lee Allen, qui est resté pendant longtemps le suspect numéro 1, qui va être... des tests ADN qui vont être faits au début des années 2000 et qui vont complètement l'innocenter. Derrière, il va revenir dans la danse parce qu'on n'est pas sûr que ce soit l'ADN du Zodiac qui ait réellement été prélevé, si tant est que... Après, il y en a d'autres. Il y a Earl Van Best, il y a Lawrence Kane, il y a...
Ça a toujours été un homme, jamais une femme.
Et non, ça n'a jamais été une femme.
Lawrence Kane, il est mort aussi.
Lawrence Kane est mort.
Donc aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas un des suspects un peu crédible qui sera encore vivant?
Non, pas à ma connaissance.
forcément, si en 69, il avait au moins 20 ans, on peut imaginer qu'effectivement, ça fait longtemps qu'il a passé l'arme à gauche. Vous écoutez France Inter, il est 16h44. Vous aimez, vous aimez quand je réfléchis
plus, on dit plus l'arme à gauche. Non, mais
vraiment. Donc, on dit l'arme à droite, c'est parce que les temps changent, non, c'est ça. Moi, je dirais toujours l'arme à gauche, monsieur. Le cœur à gauche. Oui, ben, c'est comme ça, mon pauvre Quentin. Maintenant, il est temps de découvrir l'autre personne à suivre.
Oui, bah, je vous présente David Fincher. Il a 62 ans, il est américain et c'est l'un des réalisateurs les plus talentueux de sa génération, passionné de cinéma dès son enfance. Il commence à travailler dans des sociétés d'effets spéciaux dans les années 80. Il se tourne rapidement vers la publicité puis vers la réalisation de clips. Vogue de Madonna, c'est lui. Freedom de George Michael, aussi Janis Got a Gun d'Aerosmith ou encore Who Is It de Michael Jackson. David Fincher réalise plus de 53 clips et il dit que ça a été sa véritable école de cinéma. Mais c'est dans un tout autre genre qu'il va se faire connaître en tant que cinéaste, les thrillers. Après avoir réalisé Alien 3 en 1992, il se fait vraiment un nom avec Seven, 3 ans plus tard, un thriller sombre et nihiliste qui impose son style, une mise en scène rigoureuse, un étalonnage qui donne une couleur jaune qui va devenir sa patte, une enquête oppressante, précise jusqu'au moindre détail. Et puis, il dirige brillamment ses deux acteurs principaux, Morgan Freeman et Brad Pitt. Il enchaîne avec d'autres thrillers bien sombres, salués par les critiques, The Game, Fight Club et Panichrome. Puis, en 2007, il sort le film qui nous intéresse aujourd'hui.
Cher rédacteur en chef, je suis l'assassin des deux adolescents de Noël dernier, né de la fille de Valero. Je ne suis pas le Zodiac. Et si je l'étais, je ne vous le dirais pas.
Vous êtes sûr qu'il n'y a personne d'autre ici ?
Zodiac, qui s'inspire donc du tueur de Zodiac, basé, vous l'avez dit, sur le livre du dessinateur Robert Graysmith. Le film bénéficie d'un casting 5 étoiles, Jake Gyllenhaal, malgré ce qu'on dit Cyril, Mark Ruffalo ou encore Robert Downey Jr. Il est en compétition officielle du Festival de Cannes en 2007, où il est acclamé par les critiques. Beaucoup saluent la mise en scène lente et minutieuse de David Fincher et comparent Zodiac aux hommes du président. Sauf qu'il repart bredouille de Cannes et que la sortie en salle ne se passe pas du tout comme prévu. Les spectateurs ne sont pas au rendez-vous, alors que pourtant le film a coûté plus de 86 millions de dollars. Fincher voulait des répliques exactes des lieux où le tueur avait été, ce qui a coûté énormément d'argent. Mais Zodiac rapporte 2 millions de dollars de moins que ce qu'il a coûté. Peut-être que sa durée y est pour quelque chose à l'époque. Les films de 2h30, c'était rare et ça marchait moins. Mais Zodiac fait partie de ce genre de film qui devient culte après son exploitation en salle. Aujourd'hui, il est analysé, documenté et considéré comme l'une des œuvres majeures de David Fincher.
Merci Manon. Et ce qu'on voit dans le film de Fincher, c'est uniquement une vision parmi bien d'autres de l'affaire du Zodiac.
Et oui.
Et c'est une version un peu plus... C'est parmi les versions les plus crédibles ou...
Mais en fait, la crédibilité, si vous voulez, vous pouvez trouver... Je ne sais pas combien de livres il y a d'écrits sur le Zodiac par des sleuths, des détectives amateurs, mais je pense qu'on doit dépasser les 200. Donc il suffit que vous plongiez dans un livre pour que vous puissiez plonger dans quelque chose de crédible. Cette version est crédible et elle est crédible aussi. Pourquoi ? Parce que Graysmith va obtenir des documents du SFPD, de la police de Vallejo, de Benicia et de Napa, que sont les autres communes où les meurtres ont eu lieu, et qui vont s'intéresser à Arthur Lee Allen.
Mathieu Noël sur France Inter.
Ah, il s'agissait bien sûr de Matt Berninger. Of course, indeed. Vous prenez l'émission en cours de route, vous n'avez rien compris à l'histoire du tueur du Zodiac, rien n'est perdu. La preuve, hier encore, Pierre Courade pensait qu'on allait parler d'un meurtre sur un bateau pneumatique. Je me suis toujours méfié des semi-rigides, nous confiera-t-il hors antenne. Pierre, si. Pierre, ce n'était donc pas le Zodiac que vous imaginez. Mais désormais, vous avez tout compris de l'affaire et vous nous la résumez en une minute chrono.
Et cette affaire, c'est l'histoire d'un tueur en série qui se fait appeler Zodiac. Il a sévit en Californie à la toute fin des années 60, un homme mystérieux mais qui recherche la lumière, voire même à se faire attraper. Il envoyait des messages cryptés aux journaux pour revendiquer ses meurtres, une recherche de médiatisation qui fonctionne à plein régime 55 ans plus tard, puisque notre invité en a tiré un documentaire en 4 épisodes. Nicolas Brénéol a suivi le parcours d'un ingénieur français, polytechnicien, Faisal Zirawi, qui dit avoir déchiffré l'ultime message codé du Zodiac. 37 meurtres revendiqués, 5 authentifiés, mais certains journalistes parlent d'une 50 trentaine d'homicides au total. Pas de mobile apparent, pas de mode opératoire distinct, le mystère le plus total jusqu'à ce que Faisal Zirawi découvre l'identité du Zodiac dans un message codé. Ce serait un certain Lawrence Kane, un homme qui faisait partie des 2500 suspects de cette affaire, mais qui est mort, pas de bol. Et en même temps, on n'a plus de nouvelles du Zodiac depuis 74. D'après le seul portrait robot diffusé à l'époque, le Zodiac ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, âgé de 35-45 ans. Autant dire que toute l'équipe de Zoom Zoom Zen aurait pu être suspectée à l'époque. Sans spoiler, la seule certitude du documentaire de notre invité, compte tenu des dates 69-70, la piste Cyril Lacarrière peut être écartée. Contrairement à ce que vous disiez, Mathieu, à cette époque, il ouvrait son premier ashram à Katmandou. C'est d'ailleurs là qu'il rencontrera la mère de notre réalisateur, Ghislain Fontana. Mais ça, c'est une affaire sensible.
Ah, ça, c'est une piste intéressante qui mériterait d'être creusée, Pierre. Bien joué pour ce petit tips.
Le père de tout le monde.
Oh bah...
De beaucoup de gens, quand même.
Vous êtes dans la générosité, Cyril. Merci, Pierre. Pendant cette émission, on a évoqué la beauté fascinante et mystérieuse des enquêtes non résolues. Mais Rosa Burstein, j'ai l'impression que ça ne vous parle pas trop.
Alors Mathieu, c'est bien simple. Je déteste les cold cases. J'en ai rien à foutre de l'identité du tueur du Zodiac. Pour moi, le Zodiac, c'est les chevaliers du Zodiac. Et les putains de figurines qu'un de mes dates collectionnait dans son salon. Celle-là, je l'ai payée 600 euros. C'est un import japonais. Ok, c'est pour ça que tu dors encore dans un sac de couchage, Manu. Mais sans moi, et il n'y aura pas de prochain date, ça me dégoûte d'avoir mis les pieds chez toi. Fuck les cold cases. Attention, j'adore les séries, les enquêtes policières, mais seulement quand elles sont résolues à la fin. Ou au moins quand on sait qui est le criminel. Je peux supporter max le mystère de la mort de Dupont de Ligonnès. Et encore, je choisis une théorie. Il est toujours vivant, mais sous les traits de Sofia Carla Gascon. Voilà, il était super dans Emilia Pérez, mais bon, voilà, dommage pour les tweets racistes. Les cold cases des années 70, là, je vois pas l'intérêt. Il y a pas moyen de retrouver l'ADN. Mais alors, ciao, bye, on oublie, on laisse tomber et on le dit dans la presse. Comme ça, si le tueur est toujours vivant, il peut débarquer et dire « Bon, bah voilà, c'était moi !» Et à tous les coups, on verra un petit retraité en chemisette avec la gueule de Gérard Jugnot. Désolé, mais dans les 70s, on s'emmerdait, il y avait rien à la télé, alors j'ai buté 12 autostoppeuses. Ok, bien joué Hervé, on connaît le fin mot de l'histoire. Terminé, bonsoir. Non mais moi maintenant, je vais sur mes 36 ans, j'ai plus le temps de tortiller du cul, j'ai pu à l'époque vouloir résoudre les énigmes des mecs, j'étais aussi en obsession. Je comprends pas, il a pas répondu à mon SMS, mais il a réagi à ma story par une flamme. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Mais ça veut dire que ça dégage directos. Je veux plus d'intrigues, plus de secrets, même en couple. La dernière fois, je me suis épilé un poil de téton devant mon mec. Il était là, t'as des poils sur les seins, Rosa? J'ai répondu, ben non, c'est du duvet, mais parfois il y en a un peu plus de rue, bon, rien de grave, tu t'en remettras. J'ai enlevé devant lui une crotte de nez aussi l'autre jour. Il était là, oh Rosa, pas devant moi. Quoi, c'est bon, hein, c'est pour la mettre dans l'évier, je la jette. Ma mère, elle les mangeait, voilà, devant mon père, devant nous, elle assumait, elle bouffait ses crottes de nez. Elle pouvait avoir une discussion très sérieuse, soutenir en 2011 que Strauss-Kahn était l'avenir du PS, miam, 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 se régaler. Au moins, tout est à vue, tu sais où t'en es. Alors que les séries de cold case, pardon, mais c'est archi frustrant. T'espères toujours une piste, un bout de réponse, un truc plus viable, mais on te laisse dans le flou comme une photo de vacances prise par ma tante Martine. Parfois, il y a des avancées, mais à la fin, personne ne marque. Vous voulez voir mon mec devant un match du PSG où ça finit 0-0? Bah moi, je vous le dis, devant ces séries, c'est pareil. J'ai la voix cassée et je dis « Allez tous vous faire enculer !» Non, mais c'est l'arnaque. Tu regardes un épisode, deux épisodes, trois épisodes, quatre épisodes, pour qu'à la fin, la voix off te dise « Et encore aujourd'hui, le mystère reste entier. » Mais tu te fous de ma gueule, Didier, ex-acteur de théâtre converti dans le doublage. Tu seras bientôt remplacé par une IA, donc tu peux pas d'ici là faire un peu preuve d'honnêteté et dire « Encore aujourd'hui, le mystère reste entier et vous venez de perdre 6h15 de votre vie. » Voilà, pour conclure, moi je veux des hot cases avec des solutions bien cuites, tout droites, sorties du four. Pardon, ça fait un peu nazi. Mais bon, justement, comme vous le voyez, j'ai déjà suffisamment d'angoisse dans ma vie, donc dans ma série documentaire, je veux de la révélation du voisin, violeur, des traces de sang, de sperme, des preuves. Et après, on connaît la justice française, il n'y aura pas forcément de condamnation, mais au moins, plus de doute.
Merci beaucoup, Rosa Burstein. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Et attention, il ne reste plus que 3 dates pour voir votre nouveau spectacle dédoublé au Théâtre de l'Œuvre, les 27, 28 et 29 mars. Et vous serez demain à Lyon. Il ne reste plus que quelques places, il faut se ruer dessus. Et en revanche, on ne dit pas de mal des chevaliers du Zodiac. Moi-même, j'avais les figurines, certaines importées du Japon aussi. Très belle collection, vous pourrez passer à la maison la voir. Merci, Nicolas Brenéol, Zodiac, l'obsession. Votre documentaire, ça démarre ce soir sur Canal+. Vous, à la fin du documentaire, on sait qui est le tueur du Zodiac?
Peut-être que vous serez moins frustré.
Ah, excellent teaser. Zoom Zoom Zen.